chères auditrices, chers auditeurs de Shalom Bourgogne, vous êtes dans votre émission Histoire, Mémoire et Transmission. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui M. Dimitri Vouzel, qui vient de publier un livre, Être juif en Côte d'Or, 1933-1952, sous-titre Espoir et désastre. Ce livre est paru aux éditions universitaires de Dijon. Bonjour M. Vouzel.
Bonjour.
Ce livre, la quatrième page de couverture, j'ai envie d'en lire un extrait. Qui est très fort. Respect pour les morts, vérité pour les vivants, tels sont les deux objectifs de cet ouvrage. Si vous pouviez commenter cette phrase très forte.
Oui, donc un des buts de cet ouvrage, c'est de rendre hommage, de faire revivre, je mets des guillemets bien sûr, parce qu'on ne fait revivre personne et je n'ai pas ce pouvoir-là, ceux qui ont été victimes des persécutions antisémites. Donc c'est dans ce sens-là qu'on va effectivement les respecter. On va reparler d'eux, on va les remettre dans leur vie également avant l'arrestation. On va rappeler que c'était des pères de famille, des mères de famille, des enfants, ils avaient des métiers. Ils avaient pour certains beaucoup voyagé puisqu'ils venaient d'Allemagne, ils venaient d'Autriche. Et puis vérité pour les vivants parce que c'est un ouvrage qui est basé sur beaucoup d'archives, donc qui permet d'étayer les affirmations par des preuves, hein, sachant que les archives sont des traces du passé, donc archives locales. Des archives départementales de la Côte d'Or et puis également des archives nationales, donc celle de Pierrefitte en particulier et celle aussi de Caen, hein, puisqu'à Caen il y a la division des victimes des conflits contemporains et donc il y a beaucoup d'éléments intéressants qui sont rapportés dans ce livre.
Si j'ai bien compris, ce livre remet en lumière des événements et des histoires qui étaient peu connues ou oubliées.
Oui, alors, je vais en parler de quelques-unes peut-être. Il y a l'arrivée des migrants, hein, puisqu'on parle beaucoup des migrants aujourd'hui. Mais dans les années 1930, il y a aussi des migrants qui arrivent en Côte d'Or, à partir de 1933 en particulier, dès le printemps 1933. Ces migrants ne viennent pas de très loin, ils viennent d'Allemagne. Ils fuient les persécutions nazies, puisqu'on peut rappeler qu'Hitler arrive au pouvoir le 30 janvier 1933, et que dès le mois d'avril, par exemple, il y a la mise en place du boycott en Allemagne, donc des magasins dont les propriétaires sont stigmatisés comme étant juifs. Donc des familles arrivent en Côte d'Or, arrivent à Dijon. Après, à partir de 1938, ce sont des Autrichiens, après l'Anschluss, le rattachement de l'Autriche à l'Allemagne, qui arriveront également en individu ou également en famille. Donc ça, c'est un des événements que je trouve important, puisque j'aborde leur accueil, comment ils sont aidés sur un plan local, comment ils s'intègrent pour certains également. Un autre plan, peut-être, sans tout développer, c'est ce qui se passe à la déclaration de la guerre en 1939. Donc à partir du 3 septembre 1939, il y a des juifs étrangers qui s'engagent dans l'armée aux côtés de la France. Donc ils vont s'engager dans, en particulier, la Légion étrangère pour certains d'entre eux. Et puis en même temps, comme ils sont allemands ou ils sont autrichiens, ils font partie de ce que la République française considère comme des États ennemis. Et donc un camp est ouvert dans le nord de la Côte d'Or, à Marmagne, où des dizaines d'hommes sont internés, donc à partir du 3 septembre 1933. Et donc j'ai retrouvé un rapport inédit aux archives départementales qui relate les conditions de vie et comment ces Allemands, ces Autrichiens étaient traités donc, dans ce camp.
Oui, Monsieur Vouzel, dans votre livre, vous montrez l'importance justement de traiter l'histoire sur un temps long en élargissant le simple temps de l'occupation, donc de 1940 à 1944. Comment cet élargissement permet selon vous de mieux comprendre ce qu'a été justement l'occupation en Côte d'Or?
Alors... Dans l'occupation, on va voir beaucoup d'exclusions, qu'elles soient sociales, qu'elles soient économiques, qui vont s'abattre sur tous ceux qui sont considérés comme juifs, mais aussi sur les étrangers en particulier, notamment les premiers rafles, ce ne sont que des étrangers, hein, en juillet 1942. Donc je pense que c'était important de comprendre comment ces étrangers étaient arrivés en Côte d'Or. Ils ne sont pas venus par hasard. Hein. Pour eux, c'était l'espérance de la République, de ses principes. Ce qu'ils montrent aussi par leur engagement en septembre 1939, donc je trouvais important de voir ce temps-là. Et puis ne pas s'arrêter à la libération, parce que, bien sûr, Dijon est libéré, et on va fêter les 80 ans la libération de Dijon d'ici quelques mois, le 11 septembre 1944. Sauf que le 11 septembre 1944, les familles qui ont eu des déportés ne savent pas où ils sont. Donc il y a la grande interrogation, vont-ils revenir, où sont-ils? Je pense qu'il est aussi important de réfléchir à cet état des familles, leur état moral, leur état d'espoir et puis de désespoir quand elles comprennent qu'ils ne reviendront pas. Et puis aussi la question de la mémoire ou des mémoires après la guerre. Hein, donc les mémoires de Pierre, de la Shoah, où sont-elles? C'est une question que je me suis posée. Et la question aussi des jugements, c'est-à-dire les procès après-guerre, à la fois de ceux qui ont participé aux persécutions antisémites, que ce soit les Allemands ou les Français, et puis également les victimes, ont-elles réagi? C'était un point qui m'a beaucoup intéressé dans la recherche et la préparation de cet ouvrage.
Et vous parlez aussi justement dans ce livre de la volonté de mettre en avant le fait que les Juifs n'étaient pas que des victimes. Claire Andrieux, dans sa préface, parle de votre volonté de montrer les Juifs comme acteurs et non seulement victimes. Ça s'inscrit aussi dans cette volonté de respect et de véracité historique par rapport à cette période.
Oui, donc ça je l'ai abordé en particulier dans un chapitre qui montre qu'en Côte d'Or, il y avait des Juifs résistants. Donc il y a des Juifs résistants que j'avais déjà croisés dans un travail précédent, hein, qui résistent dès l'été 1940, donc dans un réseau dijonnais qui est le réseau Grenier-Godard, et donc qui s'engagent, qui vont faire les passeurs, qui vont fournir des vêtements, qui vont héberger, donc c'est un engagement pionnier. Et puis il y a également d'autres qui vont s'engager plus tard, en particulier il y a un jeune Juif qui s'engage, et d'autres qui s'engagent dans la résistance, dans les maquis, un autre qui s'engage dans les forces françaises libres. Donc c'est aussi pour montrer cette idée-là, hein, parce que c'est vrai qu'on pense souvent les Juifs comme victimes, et en réalité, les Juifs ont aussi été des acteurs qui ont contribué à la libération du territoire et qui ont également refusé un certain nombre de mesures qui étaient prises contre eux.
Oui, et justement, dans votre introduction, vous parlez aussi de votre livre comme, je cite, « une humble contribution contre le négationnisme et l'antisémitisme ». Est-ce que selon vous, c'est des phénomènes qui ont progressé en France ces dernières années? Est-ce qu'il y a justement un danger de cette remise en cause de la véracité historique?
Alors, bon, vous connaissez l'actualité comme moi, malheureusement, avec le drame du 7 octobre dernier. Donc en France, les chiffres parlent d'eux-mêmes, hein, puisqu'il y a une explosion, hein, des actes antisémites depuis le 7 octobre 2023. Donc ce livre, oui, il est modeste, hein, il faut être lucide, c'est pas un livre qui va réduire à rien l'antisémitisme. Ce n'est pas un livre non plus qui va réduire à rien le négationnisme. Maintenant, ça fait réfléchir, ça donne des outils, ça apporte des preuves. Il y a des individus, hein, dont le récit est retracé dans cet ouvrage, des individus qui ne sont pas des individus de fiction, qui sont des hommes, des femmes et des enfants qui ont réellement existé et qui ont vécu ce qui est rapporté dans cet ouvrage. Donc ça peut être une modeste contribution, comme vous l'avez dit, et oui, le mot, il est tout à fait exact. Je voulais juste aborder peut-être un point qui est souvent oublié par rapport à cela, c'est que sur les arrestations, on a souvent très peu de témoignages. Donc on a des listes impersonnelles de personnes arrêtées, on a des listes, ensuite, des comptes rendus de police qui ont bien fait leur travail, hein, donc on a des procès-verbaux d'arrestation, mais souvent les conditions d'arrestation, on ne les connaît pas. Or, à Caen, donc au dépôt d'archives que j'évoquais tout à l'heure, donc dans les dossiers des déportés, vous trouvez souvent le contexte de l'arrestation et vous trouvez comment l'arrestation s'est passée, comment elle s'est produite. Pourquoi ? Parce que ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup surpris. Après la guerre, les familles des survivants, pour pouvoir avoir une aide de l'État, parce que parfois ils sont totalement démunis, hein, quand c'est le chef de famille qui a été déporté et qui n'est pas revenu, c'est dramatique, hein, pour une femme et ses enfants, il va falloir prouver que tous ceux qui ont été déportés en raison de... du fait qu'ils étaient juifs, non pas parce qu'ils auraient commis des délits de droit commun. Et donc il va leur falloir prouver par des témoignages, donc ils vont rechercher des témoignages, il y a des enquêtes de police, donc la police va aller frapper parfois chez les voisins pour qu'ils racontent comment les choses se sont passées, comme ça qu'à partir du moment où on a deux témoins, on peut délivrer, enfin l'État peut délivrer, parce que c'est pas on, c'est un État, peut délivrer le statut de déporté politique aux juifs qui ont donc été déportés, puisqu'ils ont ce statut-là, je précise aussi qu'ils ont le statut de mort pour la France. Ce qui peut aussi faire beaucoup réfléchir. C'est Marceline Henri-Dorivance, hein, qui explique que en fait, la France, c'est elle qui les a menés à la mort pour un certain nombre d'entre eux.
Concernant ce livre, nous remarquons qu'il est un remarquable travail de recherche historique, au sens de la méthode, de la rigueur, de l'écriture, de la restitution. Ce qui paraît un peu nouveau, enfin, dans des travaux localisés sur des territoires, c'est le fait d'avoir rencontré des descendants des personnes qui ont connu cette période, cette tragédie, et d'avoir cette confiance qui vous a permis, y compris d'avoir des archives privées, nombreuses, mises en valeur et qui rendent compte d'une autre relation aussi à votre travail.
Oui, alors ça c'est un point qui me tient beaucoup à cœur, hein. Moi, j'aime bien incarner. Donc, bien sûr, dans les archives départementales, vous avez des listes. Hein, vous avez... Mais j'aime bien aussi trouver des photographies des personnes. Et la meilleure façon d'avoir des photographies, c'est de retrouver des descendants. Donc ça, c'est souvent un de mes objectifs. Et parfois, je suis un peu frustré parce que je n'arrive pas jusqu'au bout. Et dans ce livre, il y a d'autres personnes que j'aurais aimé retrouver, mais je suis toujours en recherche. Et donc, je continue, en fait, de retrouver et de rechercher des personnes. Alors, la confiance, elle s'établit parce qu'en fait, les personnes comprennent, les descendants, que ce n'est pas... Il n'y a rien de commercial, il n'y a pas une finalité mercantile. La finalité, c'est rendre hommage à leurs ancêtres qui ont disparu, c'est leur redonner leur place dans la cité, sachant que les génocidaires, eux, leur but, c'est de faire totalement disparaître, y compris de la mémoire, leurs victimes. Donc c'est cet objectif-là qui m'anime, hein, en réalité. Et donc rencontrer les descendants, oui, c'est un grand privilège, c'est ce que je leur dis. Hein. Certains sont devenus des amis, d'ailleurs, parce que... ils m'ont en quelque sorte fait rentrer aussi dans l'intimité de leur famille. Hein. Mmh. Il y a parfois des familles qui ont ouvert des cartons qu'ils n'avaient jamais ouverts, en fait. Hein. Je pense à une famille en particulier que j'ai encore rencontrée hier soir, d'ailleurs, qui n'avait jamais ouvert le carton de l'oncle. Hein. Elle s'appelle d'ailleurs, elle est nièce posthume, c'est comme ça qu'elle se présente, parce qu'elles n'ont jamais connu leur oncle. Et donc leur mère avait dans un carton de nombreux documents, et donc elles m'ont permis d'y avoir accès. Parfois très tardivement, mais... parce qu'il faut que la confiance s'établisse, c'est pas parce qu'on fait un coup de téléphone qu'on a confiance, mais oui, c'est quelque chose de très... je suis très honoré, en fait, de cette confiance, et ça permet d'enrichir, en fait, le travail d'histoire. Je pense à un document en particulier, récent, alors les photos, hein, notamment celles de couverture, mais celles qui sont à l'intérieur, il y a beaucoup de photos prêtées et libres de droit par les familles. Il y a un document, lui, qui est arrivé assez tardivement, puisqu'il a dû arriver, je crois, en décembre dernier, c'est la demande... d'un membre de la police aux questions juives, donc était à Dijon en 1942, qui s'appelle Maurice Raton. En fait, Maurice Raton, donc, après la guerre, il est poursuivi en justice à Paris, et donc il va écrire un courrier, un peu, il envoie une bouteille à la mer, parce qu'il ne connaît pas l'adresse, mais il envoie une bouteille à la mer à deux familles dijonnaises, donc les Bigiot et les Baruc, donc il envoie un courrier, il ne connaît pas leur adresse, donc il met simplement famille Bigiot et Dijon, et il met famille Baruc et Dijon. Et en fait, il leur demande, à ce que ces familles lui fassent une attestation comme quoi ils auraient aidé et ils auraient sauvé, en quelque sorte, ces familles. Donc ça, c'est des documents un peu inédits, en fait. Ce qu'on a dans les dossiers d'archives, on a les attestations qui ont été remplies. Mais la demande de celui qui est en justice, qui demande à une famille de lui faire une attestation comme quoi il lui a apporté une aide, ça, c'est un document très, très inédit. Et donc, il est dans le livre et j'ai eu la chance de pouvoir le découvrir grâce aux archives privées. Donc oui, j'accorde beaucoup d'importance aux archives privées.
Monsieur Dimitri Vouzel, c'est une première rencontre concernant votre livre. Être juif en Côte d'Or, 1933-1952, Espoir au pluriel et désastre au singulier, avec une préface de Madame Claire Andrieux, je rappelle, publiée aux éditions universitaires de Dijon. Je rappelle, monsieur Vouzel, que vous êtes docteur en histoire contemporaine, mais surtout professeur dans un... lycée de Dijon, et que vous êtes par ailleurs chargé du service éducatif des archives départementales de la Côte d'Or et médiateur au Mémorial de la Shoah. À bientôt sur Shalom Bourgogne dans votre émission Histoire, Mémoire et Transmission.